Donc le sable, c'est un peu un accident, voilà. Carrément, oui, oui, c'est pareil, hein. C'est pareil. Oui, les grandes dunes là dans le Finistère, oui, oui, tout à fait. Oui, toutes les dunes, en tout cas de Bretagne Nord, mais aussi Bretagne Sud, sont des dunes de l'âge, entre l'âge du fer et l'époque romaine. Ce qui est récent à l'échelle géologique, oui. Le sable peut venir de très loin. Le problème, c'est qu'on a un peu de mal à savoir d'où il vient. Alors moi, j'ai étudié de près 2-3 dunes. C'est que, comme il y a un tri par le vent, c'est les grains les plus, c'est les grains les plus fins. Et les grains les plus fins, ça va être du quartz. Et du quartz, on est dans toutes les roches. Si on pouvait trouver, si on veut trouver un minéral voilà, très typique d'une roche, on pourrait dire que ça vient de là. Donc on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais ce dont on est sûr, c'est que ces dunes se sont formées à l'époque de la, donc gauloise. Quoi. Où les hommes avaient essayé de lutter contre le sable qui devait envahir leurs champs. Quoi. Donc si vous voulez, on peut aller voir un tout petit peu le cordon de galets. Alors le cordon de galets, en 2008, notamment suite à la grosse tempête qu'il y avait eu, c'était le 11 mars, qui avait coïncidé avec un relativement grand coefficient de marée, puisqu'on avait, je crois, 104. Le cordon avait été éventré. Et là, de même, d'ailleurs, pour le cordon de galets de l'Okemo. Alors, le cordon de galets de l'Okemo, c'est qu'il y a le port derrière, il y a de l'habitat. Et donc, la solution qui avait été choisie était de remettre en place le cordon de galets. Alors, pour, je ne connais pas le prix ici, mais je sais que pour l'Okemo, parce que je m'étais occupé un peu du truc, ça avait coûté 30 000 euros. Deux pelleteuses pendant, enfin c'est des énormes pelleteuses, hein, pendant une semaine. Alors il y avait eu un autre projet qui avait été suggéré par la, à l'époque, on disait encore DDE, non ? Enfin DDTM maintenant, pour stabiliser le cordon de galets, ça aurait été de mettre des pales planches, puisque derrière le cordon de galets, il y a un marais, enfoncer des pales planches et comme ça les galets ne bougeront plus. La solution qui a été choisie, c'est de se dire, bon, des tempêtes comme ça, pour l'instant, si on en a une tous les 10 ans, 30 000 euros, ça, voilà, c'est gérable. Bon, ensuite, c'est sûr que si on a ces tempêtes comme ça tous les ans, il faudra probablement penser à penser autre chose. Parce que j'ai dit, ça protège quand même. C'est, le port est à l'arrière et il y a énormément de maisons derrière. Qui d'ailleurs avaient été inondées, oui, oui, avaient été inondées quand il y avait eu la tempête de 2008. Mais des tempêtes du siècle, il y en a de plus en plus quand même. Alors, il y avait eu la tempête de 87. Et alors là, il y avait eu un coup de peau énorme, énorme pour nos côtes. Il y avait un coefficient qui était de 24, donc qui était le plus bas coefficient de l'année. Ça aurait eu lieu 8 jours plus tôt, on avait un 110. Moi, j'avais mesuré en 87 une surcote de 2,50 m. C'est-à-dire que la mer était montée plus de 2,50 m. C'est dans les endroits calmes, hein. Je ne parle pas du jet de rive, hein. Je parle vraiment le niveau. Ça, vous imaginez 2,50 m avec une pleine mer qui normalement va arriver là où vous êtes. Bon, je vais vous dire, la dune, là... tout part, hein. Tout part. Ça arrivera un jour, hein, qu'on aura une tempête monstrueuse avec un coefficient 115. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas vous dire quand, mais ça arrivera. Statistiquement, ça arrivera. Donc à ce moment-là, bah, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, l'enrochement, il valse. Hein. Sachant que si on se met dans un contexte, si on a 1,50 m en plus du niveau de la mer, bon, le mur peut-être tiendra plus. Par contre, le mur... quelque chose comme ça, c'est que la vague va vraiment monter et ça va accélérer la vague.
Ça fait tremplin.
Ça fait tremplin. Voilà. Tandis que l'enrochement, tel qu'il est là, il a un intérêt, c'est qu'il y a une rugosité. Alors, je ne défends pas du tout les enrochements. Hein. Mais bon, voilà, on peut constater. Donc on peut marcher, si vous voulez, un tout petit peu. Hein. Alors vous voyez d'ailleurs que le cordon a une courbure qui va en s'accentuant. On va aller vers une cascade. Donc si un jour on veut lutter et si on veut muscler le cordon, bah, y a une solution, ça serait d'aller chercher dans les îlots et sur les strands des blocs. Et si on met les blocs à ce niveau-là, ça va devenir des galets. On devine de loin la couleur un peu grise des galets, ce sont des galets bien roulés. Le matériel que l'on a sur tous les strands, la mer est un petit peu haute, mais à marée basse, vous allez voir, il y a quantité de cailloutis qui sont restés sur place et que la mer n'a pas eu la capacité d'amener jusqu'ici. Alors, il y a deux façons pour que les cailloutis arrivent jusqu'ici. Un, ben, on est à un endroit où la mer va pouvoir les pousser directement. Et deux, si vous avez des algues qui se mettent dessus, les algues vont alléger le galet. On parle de galet flotté. Vous avez comme ça des galets qui peuvent faire des kilomètres et des kilomètres. Hein. C'est ce qu'on appelle donc des galets flottés. Donc disons qu'on a un stock de cailloutis. C'est des cailloutis que la mer n'a pas pu mettre en mouvement. Mais si on les met à ce niveau-là, ça va devenir des galets. quand ils arrivent en Haute-Espran, ils sont dans une zone où l'énergie de la houle est suffisante pour à chaque tempête les brasser. Et vous mettez un caillou-tille, en quelques années, quelques dizaines d'années, il est devenu un galet. Donc si vous voulez, dans une zone très exposée, un caillou devient très rapidement un galet. Et la caractéristique du site ici, c'est qu'il n'y a pas eu de dunes et on a des cordons de galets. Alors que tout à l'heure, on a vu les galets qui étaient couverts de sable. Ici, il n'y a pas eu d'arrivée de sable. Et donc, on a le paysage qu'on devrait avoir en fait pour toute la côte s'il n'y avait pas eu ces arrivées de sable à l'extrême Gaulois. Un bon document, c'est le cadastre napoléonien. Donc il y a quasiment 200 ans, hein. C'est un document foncier, hein. Mais c'est très bien fait, c'est vraiment très 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 détaillé. Et en fait, l'endroit où vous avez la petite maison aujourd'hui, c'était une lande. Le grand presqu'île du gouffre, c'était des landes. Et ici, c'était considéré comme domaine public maritime, c'était la mer. Donc on va aller jusqu'au bout, parce que je voudrais vous montrer une boulette.
Donc là, on a un estran très minéral, uniquement rocheux, avec des blocs qui restent, tout ce que la mer n'a pas pu mobiliser, donc ils sont restés sur place. Mais tous ceux qui avaient une taille, on va dire, inférieure à 30 ou 40 cm, ont été facilement mobilisables. Et c'est eux qui forment ce cordon rocheux qui isole aujourd'hui la lagune en arrière. Et vous voyez, cet or granitique, c'est vraiment la caractéristique du paysage ici de Plougrescol. Alors je disais, bon, tout le monde n'a peut-être pas entendu, qu'il y a une très forte présence humaine à l'échelle préhistorique sur Plougrescol. On peut imaginer que pratiquement tous les tors que l'on voit, les hommes y ont construit des abris. Au paléolithique, au mésolithique, c'était des hommes errants. Et ils faisaient des campements, ils se mettaient à l'abri du vent et ils se servaient du haut des tors, ils grimpaient du haut des tors pour voir arriver de loin les petits copains qui voulaient leur piquer leur territoire. Et vous voyez ces lignes noires qui sont des filons de dolérite. Le granit ici, il a 600 millions d'années et les filons de dolérite, on ne sait pas leur âge, n'ont pas été datés, mais ils sont plus récents. Probablement autour de 400-450. Et ce sont en fait des cheminées d'alimentation de volcans. Donc vous voyez la roche, par endroit elle est massive et par endroit elle va être très, très finement diaclasée. Et vous imaginez que c'est une roche qui a très facilement éclaté sous l'effet du gel. Et je vais vous montrer un tout petit peu plus loin ce qu'est le head. Alors un head, c'est le nom anglais. On appelle ça aussi coulée de solifluxion. Et c'est des glissements de terrain. Et en fait, c'est quand les sols dégelaient, bah, les cailloux tilleuses glissaient sur les pentes. C'est comme quand on vomit, on fait pas le tri, il y a tout qui sort ensemble. Et là, c'est pareil, quand les versants se mettaient en mouvement, il y avait tout qui glissait. Alors on reconnaît le head parce qu'on a du caillou-tille qui est emballé dans du leus. Et ces caillou-tilles sont anguleux, ils sont très hétérométriques. Et ça, c'est vraiment la caractéristique du head. Et du head, vous en avez partout où vous avez des roches qui sont très finement diaclasées.
Et là, on commence à voir du head, voilà. Donc vous voyez, c'est des blocs très anguleux. Bon, il y en a qui vont faire 30 cm de long, donc ils vont faire 10, donc ils vont faire 20. Bon. Et surtout très très anguleux. On peut faire bien la différence avec les galets anciens. Les galets, ils sont bien arrondis. Là, c'est vraiment du brut de coffrage. Hein.